Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde, c'est Juliana pour une nouvelle émission Le Nombril de Vénus en compagnie de Christine Vanguin. Bonjour Christine.
Bonjour Juliana.
Est-ce que j'ai bien dit ton nom?
Il y a des gens qui disent
Vanguin.
Moi je dis Vanguin. En vrai c'est Stephen Rain, mais je te dispense.
Ah ouais, carrément.
Oui.
L'origine.
Mais je suis néerlandaise, née aux Pays-Bas de deux parents néerlandais, donc pure gouda. Mais du coup en France je dis Vanguin, voilà.
Ouais, autrice rennaise, nous sommes ensemble pour parler de livres parus au mois de mai de cette année, Allumeuse, aux éditions Seuil. Alors Christine, dis-nous, qu'est-ce que c'est que d'être une allumeuse ?
C'est surtout d'être appelée une allumeuse.
Oui, c'est ça.
Exactement, moi je ne sais pas du tout ce que c'est d'être une allumeuse, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que c'est un qualificatif, un épithète, allumeuse. C'est quelque chose qu'on dit d'une fille ou d'une femme, et ça peut être des hommes qui le disent, ça peut aussi être des femmes qui le disent. Et moi, ce que je montre dans mon livre, c'est que c'est toujours une projection. C'est quelque chose qui parle de la personne qui parle, et c'est pas quelque chose qui parle de la personne dont on parle.
Voilà, justement, c'est pourquoi l'allumeuse ne sait pas toujours qu'elle est dans les yeux de l'autre, une allumeuse.
Ah, mais souvent, elle ne le sait pas du tout, sauf qu'on lui dit, et très clairement. Et à ce moment-là, ça tombe comme un couperet. C'est une sentence d'être traitée d'allumeuse, parce que être une allumeuse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, tu as provoqué mon désir. Et ça implique de façon évidente, tu l'as voulu. Et à partir du moment où tu l'as voulu, tu ne peux pas te soustraire aux conséquences.
Voilà, donc nous sommes plus que jamais dans ce débat énorme sociétal autour de qu'est-ce que c'est ce consentement. Et d'ailleurs, l'heure est grave avec tout ce qui est en train de se passer autour de nous, les affaires en justice, Mazin pour ne pas le citer. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, on confond un peu tout? C'est pour ça aussi qu'il faut faire le tri.
Moi, ce que je pense et ce que j'ai voulu écrire dans ce livre, c'est que le déni du désir des femmes, c'est aussi un déni de justice. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas rendu aux femmes le plein droit sur leur désir, l'expression de leur désir, eh bien, on ne leur fera pas justice. Et on continuera d'utiliser leur corps sans leur consentement, parce que on continuera de séparer le rôle des hommes et des femmes en deux, aux femmes la séduction, une séduction qui leur est toujours prêtée, quoi qu'elles fassent et quoi qu'elles veulent, et aux hommes le rôle de les prendre, tout simplement.
Mais les injonctions pèsent lourd quand même sur les femmes, sur la question de désir.
Oui, c'est-à-dire que allumeuse, c'est compliqué parce que il faut depuis toute petite, on nous apprend qu'on doit être jolie, qu'on doit être une petite princesse, que c'est bien de provoquer le désir. Les jolies bergères sont récompensées dans les contes par un heureux mariage. Simplement, à partir du moment où on a provoqué du désir, on peut être déclaré, le mot est proche, provocante. Et à partir du moment où on est provocante, eh bien, tout est possible.
Mais il y a aussi ce désir des femmes qui n'est pas assumé forcément par tout à chacun et qui fait que peut-être aussi on peut voir chez les hommes des signes qui pourraient être interprétés comme étant des allumeurs.
Ah oui, ben alors, ouais, le problème c'est que le mot n'existe pas en masculin.
Oui, c'est vrai.
Il n'existe pas. Donc,
en tout cas, il ne voudrait pas dire la même chose.
Exactement. En tout cas, il existe. Quand on dit allumeur au masculin, ça veut dire allumeur de réverbère, allumeur de chaudière, etc. Enfin bref, c'est un terme technique. Et comme tant de mots qui existent dans la langue, quand ils sont au féminin, curieusement, ils reviennent tous à la même signification, ça veut dire prostituée, pute, salope, etc. Une allumeuse, c'est une salope. Hein.
Tandis qu'un allumeur... salope qui ne couche pas spécialement.
Alors ça dépend. En fait, quand on demande aux gens et quand on regarde dans le dictionnaire, c'est un peu ambigu. Et cette ambiguïté, elle a du sens.
D'ailleurs, elle est. Le sens même du mot.
Elle est le sens du mot, oui, absolument. C'est-à-dire qu'une allumeuse, dans la langue française, ça veut dire, d'un côté, une femme qui provoque tous les hommes, qui ne peut pas s'empêcher, qui a ce trait en elle de absolument vouloir allumer tous les hommes. Aussi, c'est une femme qui provoque le désir sexuel chez l'homme, mais pour le malin plaisir de s'arrêter, de freiner les cas de fer juste au moment où lui, il est fait comme un turbo-rôti et ne veut plus s'empêcher, il veut vraiment lui sauter dessus et en fait, elle ne veut pas. Et alors, je vous demande, Juliana, qui fait ça? Quelle femme fait ça?
Pardon, j'ai rigolé tout à l'heure parce que j'ai beaucoup aimé ton expression, mais effectivement, waouh quoi.
Non, mais qui fait ça? Qui fait ça, ce serait quand même prendre un très gros risque. Et c'est là que quand on regarde la notion, on se dit, tiens, c'est quand même une notion bien pratique pour excuser l'agression sexuelle, pour justifier le viol et mettre sous le tapis les réelles motivations. Et surtout pour faire quoi? Pour mettre la culpabilité sur la victime, tant qu'à faire.
Oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire aussi, parlons-en des aspects techniques, parce que dans ton livre, tu nous ressors aussi toute la panoplie, en fait, qui est observée par la gente masculine, là, pour le coup, la panoplie qui peut sembler, d'ailleurs, de leurs yeux, pourquoi pas, un peu technique, le maquillage, les talons, la taille fine, le brushing, ces choses-là qui font partie d'un univers féminin, ça vient aussi, d'une certaine façon, cautionner leur volonté de mettre l'homme à l'homeuse sur une femme.
Oui, en fait, quand j'ai parlé à, par exemple, des avocates qui défendent des victimes d'agressions ou de crimes sexuels, elles m'ont dit une chose, elles m'ont dit, mais il y a toujours quelque chose. L'accusé, il va toujours trouver quelque chose dans la victime, dans le comportement, la façon d'être, la tenue, etc. de la victime, le lieu où elle se trouvait, l'heure où elle était là, il y a toujours un élément sur lequel accrocher l'idée qu'elle l'a bien voulu, qu'elle l'a bien cherché, que c'est elle qui a provoqué ce dont elle vient ensuite se plaindre. On ne sait pas pourquoi elle vient se plaindre, c'est quand même étrange d'ailleurs. Et c'est ça, c'est pourquoi il y a cette chose compliquée, c'est que les femmes, d'un côté, si elles ne font pas preuve de féminité, si elles ne portent pas un minimum de maquillage, de vêtements féminins, etc., si elles n'ont pas un body language, une façon de se tenir qui dénote la féminité, elles vont prendre un énorme risque, celui d'être mise au banc de la société, celui d'être rejetée. Mais si elles le font, et elles n'ont pas tellement le choix de ne pas le faire, et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elles ne le feraient pas? Enfin, je veux dire, moi je le fais et j'ai bonheur et plaisir à le faire. Mais si elles le font, il y a immédiatement une caution qui est donnée à quelqu'un qui voudrait renverser leur signe de féminité en signal d'être une allumeuse. Il suffit de rien. J'ai une avocate qui m'a dit, il suffit d'un rouge à lèvres, d'une mini-jupe, et c'est la caution, m'a-t-elle dit, je cite, pour un gangbang. ça m'a fait vriller les oreilles, mais c'est du vécu.
Ouais,
c'est du vécu.
J'entends bien. Il y a aussi une autre chose qui se dévoile dans ton livre, c'est le fait de quand on n'est pas allumeuse et combien même on a un physique ingrat. Là aussi, ça pose problème parce que finalement, ça vient favoriser encore davantage le fait de la féminité de l'allumeuse, la jolie allumeuse, qui pour le coup est vraiment enfermée dans un rôle inaccessible pour certaines.
Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a une injonction à être jolie, en fait, Je dirais que les filles et les femmes qui sont déclarées pas belles, qui sont désignées sur les réseaux sociaux ou dans une cour d'école ou dans, je sais pas, à la cantine, au travail, n'importe où, dans un groupe, comme les pas belles, autour de quoi je mets évidemment des guillemets parce que ça n'existe pas. Ce qui existe en revanche, c'est la pression qu'on met sur elles et le fait qu'on fait d'elles finalement les boucs émissaires d'une société où ce qu'on leur fait subir, parce que c'est terrible ce qu'on leur fait subir comme opprobre, c'est très très difficile d'assumer, enfin de porter le poids de la grossophobie et de toutes les, voilà, les injonctions à être plus jolie, etc. Ce qu'on leur fait porter, c'est dur pour elles et elles servent d'indication à toutes les femmes pour leur dire attention, il faut ne pas être comme ça, il faut obéir aux injonctions de joliesse, il faut allumer. Et à partir du moment où on accepte ça, et ben, où est-ce que ça s'arrête?
Le nombril de Vénus. Nous sommes ensemble avec Christine Wangen qui nous a fait le cadeau d'un super livre qu'il faut absolument lire, découvrir, Allumeuse, Genèse d'un mythe, paru aux éditions Seuil au mois de mai 2024. Christine, comment fait-on pour avoir envie d'écrire un livre comme celui-ci? Ok, tu es journaliste, tu es philosophe, tu es autrice, tu n'es pas à ton premier livre, mais tout de même, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a envie de parler de ce sujet?
Mais je pense que, en fait, moi, je fonctionne avec plein d'intérêts qui vont dans tout un tas de directions différentes. Et ça faisait très longtemps que je m'intéressais à des figures de femmes telles que Cassandre, telles que Galatée dans la légende de Pygmalion, telles que Salomé aussi dans les évangiles. Également Esther, la reine Esther. Je n'ai pas eu le temps d'en parler dans mon livre, mais elle fait partie des femmes qui m'intéressent beaucoup et qui sont intéressantes sur cette question. Et donc aussi d'autres comme Marilyn ou bien Audrey Hepburn. Là encore, elle m'intéresse, mais elle n'est pas rentrée dans mon livre parce que tout ne rentre pas. Et toujours est-il que j'ai écrit de mon côté des textes qui sont restés dans mes tiroirs. Et ça mûrit. Et puis, il t'arrive d'autres expériences. Tu te rappelles des choses de ton passé. Et un jour, tu te dis, mais en fait, il y a un fil, il y a quelque chose de commun à toutes ces figures. Et là, paf, ça tombe dans ta tête. Elle est là, elle existe. Et c'est l'allumeuse. Et tu te dis, mais c'est ça. Et j'ai besoin d'expliquer ça. Pourquoi on raconte ces histoires en faisant de ces femmes qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont cherché à susciter aucun désir? Pourquoi on raconte leur histoire a posteriori et pourquoi on les comprend comme des horribles salopes qui ont voulu tromper les hommes et les embarquer dans une histoire qui cause leur perte à eux? Tandis que quand on regarde un peu près cette histoire, ces histoires, toutes ces histoires, c'est le contraire qui se passe. Qu'est-ce que c'est ce renversement? Voilà, moi j'ai voulu remettre à l'endroit plein d'histoires qui sont racontées à l'envers. Elles sont racontées à l'envers depuis des milliers d'années et elles continuent d'être racontées à l'envers encore aujourd'hui dans la vie de toutes les femmes.
Parce que d'une certaine façon, l'histoire de la Lumeuse, elle est intrinsèquement liée à l'histoire de Bad Boy, un romantisme désuet, mais qui fait toujours très mal et qui est bien ancré dans l'esprit de tout un chacun.
Oui, c'est, en tout cas, il y a un allumé, c'est un terme que moi j'emploie, mais qui n'est pas employé. Il y a d'allumeuse que dans le regard d'un allumé qui la déclare allumeuse. Ce dont il s'agit et qu'on ne nomme pas dans le mot allumeuse, c'est du désir, non pas de elle, mais de lui. Et en déclarant la femme allumeuse, il y a une forme de toute puissance de pouvoir dire ben voilà, en fait, ce que moi je ressens, je ne regarde pas son point de vue à elle. Son point de vue n'existe pas. Il n'y a que son point de vue à lui qui existe, et il étend en fait son désir à lui, désir de domination, désir de prendre, à quelque chose qui devient son, qui devient le, dans, à ses yeux à lui, et tel qu'il le dit, quelque chose qui vient d'elle. C'est juste une projection.
Hein. Oui, tout à fait, nous disions ça en début d'émission, et il y a aussi ce penchant, en fait, c'est l'éducation de la femme qui peut éventuellement être la clé aussi d'un changement vraiment significatif. Alors, les changements sont en train de s'opérer, on est bien d'accord.
Bah oui et non, c'est-à-dire que dans le discours, il y a plein de choses qui se passent. On voit des débats, on réfléchit à plein de choses. Et effectivement, il y a MeToo qui a commencé quand même à faire bouger les choses. Mais enfin, le féminisme, ça existe depuis bien avant MeToo. Et tout ce que MeToo raconte, chaque génération de féministes est obligée de reprendre le travail à zéro. Moi, quand je parle à des féministes un peu plus vieilles, de la génération de ma mère, par exemple, elles sont vraiment dépitées. Elles, ce qu'elles disent, c'est « mais purée, j'en peux plus ». J'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut tout recommencer. C'est comme vous, les filles, vous vous rendez pas compte. Vous faites comme si vous aviez tout inventé. Mais on n'a rien inventé avec MeToo, hein, je veux dire, mais vraiment rien. En ce sens, non, ça n'avance pas, ça recule largement autant que ça avance. Et par ailleurs, on le sait par des enquêtes, notamment celle du Haut Comité à l'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes, à l'égalité homme-femme, pardon, ce Haut Comité, il a fait une enquête à la fin de l'année dernière qui a révélé que le sexisme progresse chez les jeunes hommes, pas chez les jeunes femmes. Donc il y a quelque chose qui fait en ce moment, quelque chose qui se passe et qui touche plus les femmes que les hommes, effectivement, une prise de conscience et probablement du coup une réaction un peu en recul chez beaucoup de jeunes hommes. Donc c'est pas unilatéral le fait que ça avance et que ça aille tellement mieux que ça. Faut voir qu'on est tous pris, surtout sur Internet, etc., puis même dans nos vies, dans des bulles où on a beaucoup de biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on parle à des gens et on voit des comptes, etc., qui nous confirment dans ce qu'on a envie d'entendre. Mais donc, on ne parle pas forcément à ceux qui ne pensent pas comme nous.
Dans ton livre, il est question de parler vraiment des portraits de femmes depuis l'origine du monde, on va
dire.
Depuis Ève jusqu'à nos jours. Et le but étant aussi, j'imagine, de partager ces réflexions avec une nouvelle génération qui pourrait s'emparer pour mieux ouvrir les yeux sur les conditions de la femme.
Moi, je parle à toutes les générations, oui, c'est sûr. Et effectivement, je crois que j'ai fait un livre qui est, on va dire, accessible, qui est très lisible. Et j'espère effectivement que tout le monde peut s'en emparer. J'essaie de prendre soin de ma lectrice ou de mon lecteur et qu'il ne s'embête pas et que la lecture soit agréable et qu'elle l'embarque dans une histoire. Et
souhaitons-le des lecteurs.
Oui, les deux, mais les deux, quoi. Oui, carrément. J'ai eu plein de retours de lecteurs, effectivement, qui m'ont intéressée, d'ailleurs. Les lecteurs, la même phrase qui est revenue souvent de la part de lecteurs qui ne se connaissent ni d'Ève, c'est le cas de le dire, ni d'Adam, aussi le cas de le dire. Ils m'ont dit la même phrase, les lecteurs, souvent. Ils m'ont dit « J'ai été surpris par mes réactions. »
Ah
ouais.
Intéressant.
C'est intéressant. Et du coup, j'ai réfléchi à cette phrase. Je me suis dit, c'est quand même dingue qu'ils disent la même chose, la même phrase. Et en leur parlant un peu, en creusant un peu, j'ai compris que ça voulait dire ma première réaction en lisant certaines histoires, etc., c'est de me dire, exagère. Il y a des allumeuses, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand elles arrivent et qu'elles nous font envie. Donc, Et j'ai bien senti qu'ils avaient eu cette première réaction et qu'en continuant, en persévérant, j'ai envie de dire, ils s'étaient trouvés un peu connards.
Voilà, parlons-en sérieusement maintenant.
et j'ai adoré qu'ils me disent ça, en fait. Et du coup, qu'ils se soient dit, je bouge sur cette notion-là. Et effectivement, allumeuse, c'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable, je crois que c'est plus acceptable comme mot.
Christine, tu as choisi de nous lire un extrait de ton livre et je te remercie infiniment. Je suis sûre que les personnes qui nous entendent vont adorer cette lecture. Toujours est-il, pourquoi cet extrait en particulier?
Alors, il m'est arrivé quelque chose d'un peu exceptionnel et que j'ai eu la chance de vivre après avoir écrit ce livre. Il se trouve que j'ai lu le livre d'Isilde Lebesco qui s'appelle « Dire vrai » et que je recommande à tout le monde, qui raconte, elle, son histoire qu'elle a vécue. Elle l'a écrit avec sa sœur Léonore. Donc, l'histoire qu'elle a vécue avec Benoît Jacquot, qui était quand même un serial violeur, hein, et qui a utilisé le cinéma comme couverture pour user du corps de jeunes adolescentes, et qui se considérait, n'est-ce pas, comme un Pygmalion. Ça se faisait de dire ça. Pygmalion, c'est cette légende ancienne où il y a un sculpteur génial qui fabrique une statue et tombe amoureux de cette statue qui est sa propre création et elle prend vie, cette statue, parce qu'il demande à Vénus qu'elle prenne vie. Sauf que là, c'est pas une statue, hein, ces filles-là, c'était des vraies femmes. Et donc, j'étais très touchée par la lecture de ce livre et je me suis permis d'envoyer chez l'éditeur de Isilde Lebesco mon propre livre en me disant, allez, coup de folie, pourquoi pas. Et il se trouve que quelques temps après, j'ai reçu sur mon téléphone un vocal d'Isilde Lebesco qui était merveilleux et qui Elle est adorable, elle est vraiment très très gentille. Et elle m'a dit qu'elle était très touchée, que voilà, enfin bon, et donc en fait c'est le début d'une histoire où vraiment maintenant on s'est vu, il y a quelque chose qui s'est noué, on va peut-être faire des choses ensemble, je l'espère, je ne sais pas encore. Et elle a voulu aussi, elle, prendre un petit bout du texte qu'elle a lu. Elle a posté ça sur son compte Instagram. Je vous invite à aller l'écouter avec sa voix à elle. Et puis comme elle est réalisatrice, elle a mis de l'image et c'est très troublant, elle, très, très touchant, très fort. Elle a mis des images d'elle très jeune avec ses propres mains à elle qui parcourt son visage, donc mis ses mains à elle maintenant. Donc au début c'est assez effrayant, c'est comme une main mise et après ça devient des mains qui prennent soin, des mains qui caressent. Donc c'est très fort.
Chouette.
Ouais.
Chouette. Et donc c'est ce même morceau de texte que nous allons entendre maintenant.
Ouais, je vais lire des petits bouts du texte. Oui. Je vais couper, donc je vous invite à regarder dans le vrai livre si vous voulez aller en entier. Et puis à aller écouter Isilde Lebesco pour avoir son interprétation à elle. Et évidemment, elle est comédienne, c'est encore autre chose. Moi, c'est ma voix d'autrice. Pygmalion est un créateur, un artiste. Il préfère le monde qu'il invente au monde réel. Il tombe amoureux de son œuvre comme Narcisse de son reflet, également dans les Métamorphoses d'Ovide. L'un comme l'autre ne se rendent pas compte que c'est le reflet de leur propre être, la projection d'eux-mêmes qu'ils contemplent jusqu'à l'obsession. Pygmalion est plus enfermé encore que Narcisse dans l'amour de lui-même. En effet, Narcisse ne s'est jamais vu avant de croiser son reflet en se penchant pour boire dans une eau particulièrement tranquille, avec un angle particulièrement adapté. Il ne faut pas oublier que c'est une époque sans miroir. On voyait les autres, mais pas soi. On ne connaissait pas sa propre image. Narcisse ne connaît pas sa beauté et croit voir le visage d'un autre au fond de l'eau qu'il contemple. Il tombe amoureux de ce beau jeune homme au fond de l'eau sans savoir que c'est lui-même. S'il se connaissait, il aurait reconnu son reflet et aurait passé son chemin au lieu de se précipiter et de se noyer. Pygmalion, lui, sait que la statue dont il tombe obsessionnellement amoureux est sa propre œuvre, pour l'avoir fabriqué lui-même. Il est autrement mégalomane que Narcisse. C'est de son art, de la capacité de ses mains à mettre en forme un matériau qu'il est amoureux. Et cette passion devient dévorante. Il passe son temps à faire l'amour à sa statue de pierre, à l'habiller et la parer de bijoux, la couchant dans un lit qu'il a fait pour elle, d'une manière assez inquiétante. Pygmalion est entre obsession et hallucination. Je cite Ovide. Pygmalion s'émerveille et son cœur s'enflamme pour ce simulacre de corps. Souvent il palpe des mains son œuvre pour se rendre compte si c'est de la chair ou de l'ivoire. Et il ne s'avoue pas que c'est de l'ivoire. Il lui donne des baisers et s'imagine qu'ils lui sont rendus. Il lui parle, il la serre contre lui et croit sentir céder sous ses doigts la chair des membres qu'il touche. La crainte le prend même que ses membres, sous la pression, ne gardent une marque livide. Je reviens à mon texte. Lui qui vraiment n'aime pas les femmes en deviendrait quasiment moins misogyne tant il apprécie sa créature. Il se figure que la pression de ses doigts peut faire des marques. La folie est proche. Elle est même là.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Merci beaucoup Christine d'être venue à ce micro ici à Canal B. C'était l'émission Le Nombril de Vénus pour Allumeuse, Genèse d'un mythe, paru aux éditions Seuil.
Merci beaucoup Juliana.
À une prochaine alors.
Mais j'espère.
Ah oui, parce qu'il y a d'autres livres qui vont sortir bientôt.
Oui.
Non,
ah oui, absolument.
Ah bon, d'accord, tu nous tiendras au courant.
Oui.
Allez, bon week-end à vous. Bisous. Bye.